Mimétiquement vôtre, voir le monde avec René Girard.
Une émission proposée par Jean-Louis Salasque.
Bonjour Catherine, bonjour aux auditeurs.
Bonjour Jean-Louis.
Cette semaine, nous allons porter notre attention à un sociologue allemand, Helmut Schoek.
J'imagine qu'il a un lien avec René Girard, si tu le mets à notre programme.
Bien sûr. Helmut Schoek est de la même génération que René Girard. Il était né en 1922 et il décéda en 1993. Mais ce n'est pas le seul lien avec Girard. Helmut Schoek est principalement connu pour un ouvrage imposant publié en 1966, « L'envie, une théorie de la société ». C'est cette question de l'envie qui fait le lien avec l'anthropologie girardienne. René Girard a en effet expliqué comment l'envie prend sa source dans le mimétisme. La première traduction anglaise est parue dès 1969 avec comme titre « L'envie, une théorie du comportement social ». La première édition française, quant à elle, n'est sortie qu'en 1995, soit près de 30 ans après la parution de l'ouvrage en langue originale, et elle a pour titre « L'envie, une histoire du mal ».
Mais cette traduction transforme le sens du titre initial.
C'est le moins qu'on puisse dire. Elle identifie le mal et l'envie, ce qui n'est absolument pas la signification originale.
Pourquoi un délai si long et une telle modification du sens du titre ?
Voyons ce que nous trouvons dans ce livre et nous essaierons alors de répondre à ces questions. C'est une véritable somme qu'Helmut Schoek a établie à propos de l'envie. Il a relevé ses traces dans tous les domaines. Coutumes, morale, religion, histoire, ethnologie, littérature, philosophie, politique, etc. Mais il ne se contente pas de constats. Il propose plusieurs thèses et les soutient par son enquête.
Il faut d'abord que tu précises ce qu'est l'envie aux yeux de ce sociologue. Comment il la définit ?
Helmut Schoek reste très proche de l'acception courante. Il définit l'envie ainsi. Elle est le sentiment de déplaisir devant les qualités ou les prospérités d'un autre. Elle s'accompagne du souhait de les voir réduites à néant, sans nécessairement chercher à les posséder à sa place. L'envie est bien un comportement social, il faut au moins une autre personne. Ce comportement ne recherche pas de réciprocité. Il ne souhaite rien pour celui qui l'éprouve, il souhaite uniquement que les autres, ceux qui lui inspirent de l'envie, soient dépossédés ou humiliés. Ce désir de voir réduites à néant les qualités ou les prospérités d'un autre rend l'envie dangereuse et destructrice. C'est pourquoi elle est universellement réprouvée. Helmut Schoek lui reconnaît cependant quelques utilités sociales, comme de réguler l'orgueil ou l'excès de pouvoir et de contribuer au respect des règles de la société. Mais ces utilités sociales ne justifient pas que l'envie devienne le critère central de l'organisation de la société.
Pourquoi envisages-tu que l'envie soit un critère d'organisation sociale ?
Il s'agit de la principale thèse d'Helmut Schoek. Il n'est pas souhaitable que l'envie joue un rôle central dans l'organisation de la société, ni en acceptant ce qu'il appelle une « envie victorieuse », c'est-à-dire une société dans laquelle l'envie ne serait pas réprouvée et ses effets acceptés comme légitimes, ni non plus en s'obnubilant sur l'apaisement des envieux, c'est-à-dire une société cherchant à ce que personne ne puisse éprouver d'envie. En d'autres termes, une société centrée sur l'égalité de tous en toutes choses. Son argument est celui du développement. Une société évolue et se développe sous l'impulsion de personnes qui prennent des initiatives, qui innovent, qui se distinguent, qui servent d'exemple aux autres. Ce faisant, elles peuvent susciter l'envie. Dans une société qui considère légitimes les effets de l'envie, les innovateurs seraient attaqués et détruits par les envieux. Une société qui, au contraire, cherche à éviter de stimuler les envieux, instaurera elle-même des mécanismes interdisant à quiconque de se distinguer, donc de faire naître l'envie. Dans les deux cas, toute évolution et tout développement deviennent impossibles. Helmut Schoek cite une phrase du philosophe danois Søren Kierkegaard. L'envie élevée à la hauteur d'une institution s'appelle le nivellement. Elle étouffe et l'entrave, elle nivelle. Pour Helmut Schoek, le climat social le plus propice au développement d'une société est celui où règne un consensus pour agir comme s'il n'y avait pas d'envieux. Être conscient qu'il y en aura toujours ne doit pas empêcher les innovateurs de jouer leur rôle. Voilà sa recommandation.
Nous pouvons peut-être aborder la question des liens entre la réflexion d'Helmut Schoeck et la vision de René Girard.
Tout d'abord, il faut signaler qu'il n'existe aucun indice que chacun des deux ait eu connaissance des travaux de l'autre. Le premier livre de René Girard est sorti en 1963, celui d'Helmut Schoeck en 1966, et le deuxième de Girard, La violence et le sacré, en 1972. Aucun ne cite l'autre ni ne le mentionne dans les bibliographies. Ce qui les relie, c'est bien sûr que l'envie soit l'une des configurations relationnelles du triangle mimétique. Un sujet va désirer un objet parce qu'il constate qu'un autre le désire. Cet autre est son modèle, son médiateur dans la terminologie de René Girard. C'est le fameux désir triangulaire à la base de son anthropologie. Dans certains cas, le sujet, pour diverses raisons, renonce à poursuivre le désir qui lui a été inspiré. Il rend responsable son modèle de cet échec et conçoit contre lui du ressentiment. Puisque lui-même n'a pas la possibilité d'accéder à ce qu'il désire, personne d'autre non plus ne doit y accéder. Ainsi naît l'envie, c'est-à-dire la haine de ce que possède l'autre et le souhait de l'en voir privé. Ce point de convergence va très loin. Girard expose comment le désir mimétique peut être ce qu'il appelle un désir métaphysique, c'est-à-dire que le sujet ne se contente pas d'imiter telle ou telle caractéristique de son modèle, mais qu'il veut littéralement s'approprier son être, être lui pour ainsi dire. Il est frappant de constater qu'Helmut Schoeck exprime la même situation relationnelle, en des termes très voisins. Il parle d'envie existentielle, en s'appuyant sur des travaux de Max Scheler et Ludwig Klages, deux philosophes allemands de la génération précédente. Voilà comment s'exprime cette envie existentielle. « Je peux tout te pardonner ». Sauf que tu existes et que tu es ce que tu es.
Y a-t-il d'autres points communs ?
Schoeck et Girard ont encore un point commun et de grande importance. Ils ont tous deux noté un phénomène complètement contre-intuitif. René Girard nous fait remarquer que les rivalités mimétiques menacent d'autant plus que les personnes sont proches. Helmut Schoeck fait exactement le même constat. L'envie n'est pas proportionnelle à la force de la tentation, mais plutôt à la proximité, écrit-il. Ce mécanisme repose sur la possibilité de se comparer, donc de se dire « mais je pourrais être à sa place ». Le matelot envie le quartier-maître, pas l'amiral de la flotte.
Quelles sont les différences entre René Girard et Helmut Schoeck ?
Une différence fondamentale les sépare. Helmut Schoeck en reste à l'idée qu'il existe des personnes intrinsèquement envieuses. Il n'explique pas pourquoi, il constate le fait. Tandis que René Girard considère que chacun d'entre nous est susceptible de basculer dans l'envie. Ensuite, ils se rejoignent à nouveau. Pour le sociologue allemand, l'envie est universellement réprouvée. Sur les 3000 formes de culture connues, pas une seule n'a fait de l'envie une vertu. C'est-à-dire qu'elles ont des règles, des normes sociales qui rejettent l'envie. Pour René Girard, les normes sociales sont issues des tabous, et les tabous ont précisément pour objet d'éviter les rivalités mimétiques, sans quoi la communauté serait exposée à la crise violente de tous contre tous. Il va de soi que l'envie, qui suggère à qui en est atteint de priver l'autre des biens qu'il possède, voire de le détruire, est bien l'un des facteurs de ces crises violentes.
Quelles sont les autres différences ?
J'en mentionnerai une qui me paraît également répondre à la question que tu posais au début de notre entretien. Pourquoi le livre de Schoeck n'a-t-il été introduit en France que si tardivement ? René Girard n'a jamais investi le champ politique. Au contraire, Helmut Schoeck entre dans le champ politique. Sa thèse principale est qu'il n'est pas souhaitable de fonder un système social en accordant trop d'importance à apaiser les envieux. Or, une telle remarque pointe immédiatement sur les projets collectivistes ou égalitaristes. Schoeck écrit « éradiquer l'envie par l'égalitarisme est une utopie. N'oublions pas qu'il écrivait en 1966. Il s'oppose donc au projet porté par l'URSS et le bloc soviétique. Or, en France, à cette époque, l'intelligentsia est entièrement acquise aux thèses marxistes. Dans un tel contexte, il n'est guère étonnant que traduire et publier le livre de Schoeck n'ait tenté personne. Ce sera fait en 1995, c'est-à-dire après la chute du mur. Le sociologue allemand connaissait la culture française, marquée par la passion de l'égalité. Passion née avec la Révolution, ainsi que Balzac a été le premier à le noter dans son roman Béatrix. En proclamant l'égalité de tous, on a promulgué la Déclaration des droits de l'envie. Sans citer Balzac, Helmut Schoeck reprend à son compte l'idée que les partis révolutionnaires et socialistes sont portés par l'envie, même s'ils s'en défendent. Et Schoeck redoute cela, car ses observations sociales lui ont montré à quelles extrémités peut mener l'envie.
Avons-nous fait le tour de la question ?
Le livre d'Helmut Schoeck fait 600 pages, mais nos échanges sont déjà une approche.
Alors, il nous reste à remercier les auditeurs de leur écoute. Au revoir, Jean-Louis.
Au revoir, Catherine.